de la maladie dans les politiques internationales de santé communautaire, et on va, comme on l'a dit, prendre l'exemple plus particulièrement du paludisme en Afrique subsaharienne. La présentation, ici c'est un très bref plan, je vais d'abord vous rappeler un peu l'évolution des conceptions du paludisme, d'Alma-Ata jusqu'à Rollback Malaria. Et puis on parlera de deux illustrations, le recours aux agents de santé communautaire et l'utilisation des tests de diagnostic rapide. La slide qu'il faut à tout prix présenter, lorsqu'on ne sait pas du tout quel est le panel, qu'est-ce que le paludisme ? Alors vous savez très probablement tous ce que c'est que le paludisme, on ne va pas s'étendre là-dessus. Une maladie donc due à un parasite qu'on appelle le plasmodium, qui est transmise par l'anophèle. Ce que je trouvais intéressant ici, en montrant le cycle de transmission, c'est, il faut bien se rendre compte que le parasite, le moustique, excusez-moi, n'est qu'un vecteur. Le moustique ne naît pas avec le plasmodium en tant que tel. Donc, le moustique lui-même s'infecte auprès d'un individu, et puis il y a tout un cycle qui se passe au sein du moustique, et il va réinfecter quelqu'un d'autre. Donc le moustique est un agent de transmission en tant que tel. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut vraiment parler de différentes conceptions du paludisme ? Je vous ai présenté la définition que vous trouvez dans n'importe quel encyclopédie ou manuel médical. Ça a l'air assez simple, une maladie, un parasite, un vecteur, un cycle, etc. Bien sûr, on peut complexifier, mais on peut se poser la question, pourquoi parler de conception en tant que telle du paludisme ? Alors l'objectif de notre présentation, c'est de vous montrer que oui, il y a différentes conceptions du paludisme, et que... En fait, on essaye de montrer que les changements qu'ont connus, les grands efforts de lutte contre le paludisme, reflètent dernièrement un changement de paradigme, une nouvelle conception du paludisme. Et donc, cette nouvelle conception, c'est une conception biomédicale. Alors, est-ce qu'elle est nouvelle ou est-ce qu'elle est empruntée ? En tout cas, on voit un effet, comme le disait tout à l'heure Valérie, de balancer. C'est plus qu'un simple réajustement des interventions, selon nous. C'est pas juste, bon, on a essayé ça, ça n'a pas fonctionné, on va essayer quelque chose d'autre. Non. La modification, les changements dans les interventions sont le reflet d'un virage conceptuel plus profond. Comme je le disais, pour parler des différentes conceptions du paludisme, je vais remonter jusqu'à Alma-Ata. C'est pas un cours d'histoire, mais... il faut quand même remonter jusque-là parce que c'est vraiment très important ce qui s'est passé là-bas. Alma-Ata, donc une petite ville située au fin fond du RSS, une conférence en 1978 qui est, pour nous en santé publique, une sorte de révolution. On est dans une décennie très particulière. Les pays non alignés, les pays du tiers-monde, comme on les appelle à ce moment-là, viennent à Alma-Ata, parce que Alma-Ata, c'est une conférence qui réunit tous les ministres de la santé, des membres de l'OMS. Et donc, les ministres ou les représentants à cette conférence viennent avec une mission qui est de redéfinir la santé, de changer de modèle. Ils veulent s'extirper du modèle colonial dont ils ont hérité et un petit peu reproduit, qui est centré autour des soins donnés dans des hôpitaux, d'une santé très urbaine, des programmes de lutte contre les grandes maladies, évidemment le paludisme, il y en a eu d'autres, le pion, etc. L'idée, la conception qu'ils essayent de mettre en avant, c'est que la santé n'est pas un bien comme ça qui découle d'une croissance économique. Les États doivent agir par des politiques publiques, des politiques sociales, et c'est donc vraiment un appel à l'interventionnisme de l'État qui a Alma-Ata. Ils vont définir un mode d'action, la politique des soins de santé primaires que bon nombre d'entre vous connaissent, qui sont des soins de santé essentiels, fondés sur des méthodes et des technologies très pratiques, très simples, scientifiquement viables, socialement acceptables. Il faut intervenir, outre le secteur de la santé, tous les secteurs et domaines connexes du développement. Ils exigent et favorisent au maximum l'autoresponsabilité de la collectivité et des individus. Alors, il y a beaucoup de mots-clés là-dedans. Ce qu'il y a vraiment dans la politique des soins de santé primaire, c'est une vision holistique et intégrée de la santé. On essaye de se détacher des interventions contre des conditions, contre des maladies spécifiques, et de réfléchir à plus long terme. Comment est-ce qu'on peut améliorer la santé des populations véritablement ? c'est un appel à une action multisectorielle. Il faut agir à la fois sur la santé, sur l'environnement, sur l'agriculture, sur l'économique, sur le social, sur le culturel. Et donc, c'est effectivement beaucoup plus complexe, mais c'était en tout cas une révolution à ce moment-là, une nouvelle conception de la santé publique. Dans ce cadre-là, le paludisme en tant que tel à Alma-Ata, il n'est pas directement abordé. Personne, évidemment, n'ignore, aucun des conférenciers n'ignore le fardeau que représente le paludisme, mais à Alma-Ata, c'est tout à fait cohérent de ne pas parler d'une maladie en tant que telle, puisque le paludisme est vu comme une manifestation morbide de la vulnérabilité des individus, des communautés, du manque d'autodétermination de ces communautés. L'Alma-Ata ne va pas connaître un immense succès, malheureusement, dans les faits, pour plein de raisons. Il y a des facteurs structurels, des facteurs conjoncturels. L'année d'après, il y a le deuxième choc pétrolier qui va entraîner une immense récession économique. Il va y avoir la crise de la dette. Les années 80 vont prêter le flanc aux politiques d'ajustement structurel. L'initiative de Bamako en Afrique subsaharienne qui est adoptée en 1987. Et on voit déjà qu'au sein des organisations internationales, il y a quelque chose qui change. La Banque mondiale, pendant les années 80, va financer davantage les projets sanitaires que l'OMS. On observe vraiment une réorientation des canaux de l'aide. Également, l'UNICEF va adopter une nouvelle orientation. Il va avoir un nouveau directeur général au début des années 80. Et devant tout ça, l'OMS va un petit peu se retrouver toute seule avec sa politique des soins de santé primaire qu'elle a chapeautée à Alma-Ata, et elle va tout simplement reculer. Les soins de santé primaire vont, dès le début des années 80, devenir des soins de santé primaire sélectifs, ce qui est une contradiction, c'est un oxymore, ça ne peut pas exister, puisque les soins de santé primaire ont été élaborés justement dans une vision intégrée, holistique de la santé. Vous voyez ici un extrait que je trouve très intéressant du docteur Malheur, qui ne porte pas un nom très heureux, mais qui était le directeur général de l'OMS pendant plus de 10 ans. Je me permets de le lire, c'est « La plus grande déception est venue quand plusieurs organisations du système des Nations Unies ont à leur tour adopté une approche sélective des soins de santé primaire. On était revenu à la case départ. Nous avions commencé par des programmes sélectifs de soins de santé, luttant contre des maladies déterminées comme le paludisme et la tuberculose pendant les années 50 ou 60. Nous avons eu ensuite ce réveil spirituel et intellectuel issu d'Alma-Ata, puis tout à coup, certains avocats des soins de santé primaires en sont revenus à la vieille approche sélective. » Alors, dans ce cadre-là, dans ce retour, nous, on observe vraiment un retour d'une conception biomédical. On pourrait passer un cours entier à essayer de définir ce que c'est qu'une conception vraiment biomédicale, etc. Ici, vous voyez des travaux récents publiés par Clark qui disent que, dans le fond, le modèle biomédical, ça repose sur une définition négative de la santé. La santé, c'est l'absence de maladie. Et ça se caractérise par une vision réductionniste de la santé, une vision très individualiste entre autour du malade, du patient, et centré autour de l'utilisation de médicaments et de technologies. La tendance à cette biomédicalisation, on l'a observée depuis les années 80. Dans le cadre du paludisme, il y a eu un phénomène d'accélération à la fin des années 90. Il y a, de nouveau, c'est complexe, il y a plusieurs facteurs, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais une conjonction quand même de certains éléments. Tout d'abord, des nouvelles molécules qui ont été synthétisées à base d'artémisinine. Ça a donné lieu à des médicaments nouveaux, très efficaces contre le paludisme, pour lesquels, évidemment, il n'y avait pas encore de résistance, puisque c'était nouveau. Il y a eu la création, en 98, du partenariat Faire reculer le paludisme, Roll Back Malaria, qui est un regroupement d'experts qui émettent des recommandations et qui travaille étroitement avec l'OMS, avec UNICEF, avec le Fonds mondial. Le Fonds mondial, c'est le troisième facteur, qui, donc contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, qui a engendré une augmentation, quand même, en tout cas, on a observé une augmentation des fonds qui ont été alloués pour la lutte contre ces maladies. Dans ce cadre-là, l'OMS a adopté un nouvel objectif, qui était non plus d'améliorer les conditions de vie et de favoriser l'autodétermination des communautés, etc., qui était très vague, on en convient. Et dans le cadre du paludisme, ça a été maintenant, elle a mis tous ses efforts pour bloquer justement cette transmission dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la transmission, on distingue automatiquement des individus malades et des individus sains. Ça a permis aussi de définir des groupes à risque, principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, parce qu'ils sont plus susceptibles en tout cas de développer des complications et de connaître, d'avoir un décès. Il y a eu toute une panoplie d'interventions qui ont été définies par l'OMS, des interventions thérapeutiques, on pense à la chimioprophylaxie saisonnière, le traitement préventif intermittent, le traitement préventif, etc. Aussi des interventions préventives, ce qui n'est pas incompatible avec une vision biomédicale. Les interventions préventives de l'OMS, c'est principalement l'utilisation des moustiquaires imprégnés, la pulvérisation intra-domiciliaire. C'est une prévention quasiment immédiate, je dirais, du paludisme. On ne s'attaque pas aux causes vraiment sous-jacentes, c'est une prévention immédiate. On cherche, dans ce cas-ci, à éliminer le vecteur. Dans le fond, c'est la théorie des germes chère à l'épidémiologie, qu'on croyait désuète déjà dans les années 50-60 aux États-Unis, et puis on observe que, dans le fond, au sein des organisations internationales, cette idée-là que chaque maladie est unique et causée par un agent microbien distinct sur lequel il faut agir, elle est loin d'être dépassée. Donc ici une synthèse, je vais passer ici, vous voyez les conceptions, une conception holistique et intégrée de la santé, une conception biomédicale, un contexte très politique très, très spécifique dans les deux cas, très différent, des interventions, évidemment, j'en ai parlé, qui sont très très différentes, et les acteurs aussi. Alors que Alma-Ata, la déclaration d'Alma-Ata mettait beaucoup l'exergue sur les communautés, les États, les individus, on observe dans une conception biomédicale que les organisations internationales ont un poids déterminant, que les ONG aussi sont souvent un canal par lequel transitent les fonds, et donc les interventions sont mises en œuvre. Donc le recours aux ASC, c'est pour moi un cas typique de ce virage conceptuel. Les agents de santé communautaire, ils ont personnifié en quelque sorte la politique des soins de santé primaire dont je vous parlais plus tôt, donc, au lendemain d'Alma-Ata. Bon, rapidement, un agent de santé communautaire, il y a différentes définitions. De nouveau, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. On s'entend pour dire que c'est un individu qui vit dans une communauté, dans un village généralement, qui est choisi par cette communauté-là, qui reçoit une formation très courte, ça peut varier de quelques jours à quelques semaines, quelques mois, mais c'est très très rare dans ce cas-là, et ce sont des collaborateurs du système de santé. Ce ne sont pas exactement des agents de santé, mais ils sont quelque part une passerelle. À Alma-Ata, les agents de santé communautaire, ils ont connu un tel succès qu'ils ont quelquefois occulter la politique des soins de santé primaire. On a amalgamé les deux, tellement les agents de santé communautaire ont eu d'importance. Ils ont été conceptualisés comme des acteurs pour provoquer le changement dans les communautés, un changement social, politique, quelque chose pour favoriser l'autodétermination de ces communautés-là. Alors, ils ont réalisé différentes tâches, c'est évident, c'était assez flou d'ailleurs, leur mission à Alma-Ata, mais c'était cette vision-là qu'ils ont été conçus. Pour reprendre Wolf, c'est une vision très politique d'un agent de santé communautaire. Ils ont en quelque sorte survécu un petit peu, tant bien que mal, mais il est certain qu'avec le déclin de la politique des soins de santé primaire dès le début des années 80, la grande mission qui était issue aux agents de santé communautaire a un complètement décliné. Et dans les grandes recommandations internationales, si vous prenez les rapports de l'OMS, par exemple, dans les années 90, on ne parle absolument plus des agents de santé communautaire. Ce n'est plus un acteur central pour la mise en œuvre des interventions. Il se passe quelque chose dans les années 90. Ils vont réapparaître sur le devant de la scène. Le contexte est, a une importance ici. C'est, comme on l'a vu, il y a une augmentation des fonds. Avec la création du Fonds mondial, bon, il y a eu différentes initiatives aussi privées, on pense au fonds Bill et Melinda Gates, Clinton Initiative, etc. Mais donc il y a une augmentation assez considérable quand même des fonds, avec des systèmes sanitaires, notamment en Afrique subsaharienne, qui subissent le coup de 20 années de politique d'ajustement structurel, et qui sont la plupart du temps qui vivotent, qui sont un peu déliquescents. Donc il y a une crise en ressources humaines dont l'OMS s'est rendu compte au début des années 2000, qui a émergé, et ça a favorisé le retour à l'avant-scène des agents de santé communautaire. L'OMS a d'ailleurs défini une stratégie qu'on appelle délégation des tâches, task shifting, qui était au départ pour la lutte contre le VIH, mais qu'on retrouve maintenant dans d'autres secteurs. Au début des années 2000, elle a défini une stratégie, ou plutôt une stratégie qui avait déjà un petit peu existé auparavant, mais elle a vraiment remis à l'avant-plan la prise en charge communautaire du paludisme. La prise en charge communautaire du paludisme, ça signifie qu'on va utiliser les agents de santé communautaire, on va leur donner une très courte formation, au Burkina c'est 2 ou 3 jours, on va leur donner des traitements, antipaludéens, et ils vont être en charge d'administrer ces traitements-là de façon présomptive, donc sans diagnostic formel, aux enfants qui se présentent avec de la fièvre. Donc un enfant se présente auprès d'un agent de santé communautaire avec de la fièvre, il vérifie qu'il n'y ait pas de signe de gravité qui nécessiterait un renvoi vers un centre de santé, et s'il n'y a pas de signe de gravité, il donne le traitement ou il le vend à un prix modique. Donc cette intervention visait à rendre le médicament plus proche du malade, dans les villages, accessible dans les villages, et donc à accélérer la prise en charge, ce qui est un facteur clé pour limiter justement la létalité des épisodes fébriles. C'est une stratégie qui est surtout utilisée pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, elle est évidemment, elle repose sur des preuves scientifiques, il y a un bien fondé quand même derrière cette stratégie-là, mais il y a des grosses limites dans la prise en charge communautaire du paludisme. L'une d'entre elles, c'est qu'elle repose sur un paradoxe. Comme on l'a vu, les agents de santé communautaire ont été un petit peu, sont revenus à l'avant-plan pour pallier en quelque sorte les carences ou les lacunes d'un système sanitaire. Or, on sait depuis 20, 30 ans, depuis les années 80, il y a beaucoup d'études sur les agents de santé communautaire, on sait que la performance des agents de santé communautaire dépend fortement du bon fonctionnement des systèmes en arrière de données. Qu'il s'agisse de leur formation, de leur supervision, justement du renvoi des cas graves vers les centres de santé, de l'approvisionnement en médicaments. Il faut un système sanitaire solide pour assurer une bonne performance des agents de santé communautaire. Il y a d'autres limites. Évidemment, cette administration présomptive qui maintenant, l'OMS est en train un petit peu de changer cette stratégie-là, mais l'administration présomptive entraînait un surtraitement. Donc on donnait un traitement à tous les enfants qui avaient de la fièvre, mais on n'était pas certain qu'il avait le paludisme. Donc il y avait tout un danger d'augmenter les résistances des parasites aux médicaments et surtout aussi de retarder une prise en charge appropriée pour les enfants qui n'avaient pas le paludisme, qui souffraient d'autres choses. Un point très intéressant, c'est que le médicament dans cette prise en charge, à travers cette prise en charge, le médicament prend une place prépondérante, je dirais à la fois pour l'agent de santé communautaire, qui a plus de pouvoir, de légitimité du fait qu'il a ces médicaments, mais aussi pour la population. Donc là, dans la thèse, on a passé en entrevue ces agents de santé communautaire, puis l'un d'entre eux nous disait, donc ici c'est au Burkina Faso, dans un district, à Zorgo, le problème c'est le manque de médicaments. Maintenant, même si nous réalisons une séance de sensibilisation, les gens demandent s'il y a des médicaments. Si on leur dit non, ils disent « Tu nous appelles pour nous sensibiliser, décidément, mais tu n'as pas de médicaments, donc nous n'allons pas venir. » Donc on voit que les ruptures en médicaments ont parfois des effets pervers, non seulement sur la prise en charge, évidemment ils ne peuvent pas assurer leur administrer les traitements, mais même sur leurs autres missions, ça mine leur crédibilité. Sinon, il y a d'autres problèmes qui sont récurrents dans les programmes de prise en charge, des problèmes de pérennité, d'attrition, de soutien, il y a des relations de pouvoir dans les villages, il y a le problème de la collaboration avec le système de santé, avec les agents. Donc, tous ces problèmes-là sont loin d'être réglés. Or, ils sont... Alors, c'est pour ça que, c'est en tout cas notre hypothèse, on a observé au Burkina Faso une certaine inertie dans le recours aux soins. On est allé dans des ménages, puis on a demandé à les mères, est-ce que votre enfant a été récemment malade, est-ce qu'il a eu la fièvre? Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis on a regardé quels étaient leurs recours. Alors vous voyez ici tout en bas, bon, 2011, 2012, 2013, et il y a différentes colonnes, c'est en fonction des régions, peu importe. Mais tout en bas, en bleu, c'est la proportion des enfants qui ont été amenés auprès d'un agent de santé communautaire. Ça varie entre 0 et 9%. Même après 3 ans, donc le programme a été introduit en 2010, donc comme ça, même après 2-3 ans, le taux d'utilisation des agents de santé communautaire pour le paludisme est très très faible. L'objectif était de 80%. La prise en charge intégrée des maladies, je conclurai rapidement là-dessus. Bon, les ASC, c'est une stratégie très commune, très populaire en ce moment en Afrique subsaharienne. Jeffrey Sachs a récemment appelé à former 1 million d'ASC d'ici 2015. La médicalisation des ASC, elle concerne d'autres programmes. Donc, ici, on vous a montré le cas du paludisme. Il y a d'autres auteurs qui ont montré ça dans le cas du VIH, de la tuberculose, etc. Et d'ailleurs, ça concerne d'autres acteurs. Les accoucheuses traditionnelles sont un autre exemple flagrant d'une certaine médicalisation d'un acteur. Donc, dans ce cadre-là, on observe que cette tendance, en tout cas, moi, je redoute que cette tendance est loin de s'arrêter. L'année dernière, ou en 2012, l'UNICEF et l'OMS ont produit ensemble une déclaration. Ils ont élaboré une nouvelle stratégie qu'on voyait venir, qui est la PCIME, ou peu importe le terme, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Et donc, grosso modo, ça serait la même chose. Donc, on formerait de nouveau des agents de santé communautaire, mais cette fois-ci, ils administreraient des traitements non seulement pour le paludisme, mais pour 2 ou 3 autres maladies très très fréquentes aussi, qui sont la diarrhée, la pneumonie, et peut-être la malnutrition. Donc, on voit que c'est une tendance lourde. Le problème de la performance des agents de santé communautaire va devenir de nouveau criant. On voit dans notre étude au Burkina, on voit qu'ils éprouvent des difficultés, alors que l'algorithme, jusqu'à présent, était très simple. Fièvre, traitement. Dans ce cadre-ci, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, avec des symptômes, avec d'autres méthodes diagnostiques, etc. Compter le taux de respiration par minute, je vous passe tous les détails. Donc, le problème de la performance risque d'être à nouveau criant dans ce cadre-là. Alors, je vais laisser la parole à Sylvie.
Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, donc sur le second exemple, et après on pourra tous échanger. Et puis j'ai évidemment failli à ma tâche de présenter le professeur Baya Bonza, qui est le directeur général de l'Institut national des statistiques et de la démographie au Burkina, et de passage parmi nous, car il a obtenu un prix d'honneur hier à l'Université de Niamey. Alors on se voit. Donc on va laisser la parole à Sylvie qui aura ce prix bientôt, mais pas tout de suite, qui va nous parler de son expérience.
Donc pour aller un peu dans le même sens que Thomas, tout ce que Thomas vient de dire, le deuxième exemple concerne les tests de diagnostic rapide du paludisme. Et au niveau de la prise en charge du paludisme récemment, on a constaté des résistances à certaines molécules, dont les traditionnels qui sont la chloroquine, le sulfate d'oxyne. Et donc depuis quelques années, il y a l'OMS a mis en place, a adopté un programme thérapeutique basé sur des combinaisons à base d'artémisinine. J'ai toujours des difficultés avec ça. Artémisinine. Voilà. Et le principe, en fait, ici, c'est que toute prise en charge médicamenteuse maintenant doit reposer sur la mise en évidence préalable du parasite du paludisme. Donc, on ne peut administrer un traitement contre le paludisme que lorsqu'on a fait un diagnostic biologique qui nous permet de confirmer que l'individu, le sujet, souffre et est porteur du parasite du paludisme. Et donc, dans ce sens-là, l'OMS recommande depuis 2010 que des tests en routine soient pratiqués sur tous les sujets et reçus en consultation et suspectés de paludisme dans les zones endémiques. Jusque-là, jusqu'à une période récente, le diagnostic biologique était basé fondamentalement sur la goutte épaisse, qui est un test sanguin en laboratoire et qui permettait de mettre en évidence le parasite du paludisme. Sauf qu'avec cette technique qui était faite au microscope, il fallait attendre plusieurs heures, voire des jours, selon les contextes, pour avoir les résultats. Et cette technique aussi nécessite un certain cadre pour sa réalisation. Or, dans les centres de santé de base, le matériel fait défaut. Déjà, les microscopes, on ne peut pas en avoir pour tous les centres de santé de base. Le personnel qualifié pour réaliser ces examens fait défaut. Et du coup, dans la plupart des cas, le diagnostic est établi de façon présomptive. Et l'OMS, dans une nouvelle stratégie, a essayé de promouvoir depuis quelques années les tests de diagnostic rapide. Donc, depuis 2004, il y a cette promotion qui est faite. Et en 2010, l'OMS recommande fortement l'utilisation de ces tests dans le diagnostic et la prise en charge du paludisme. Donc, les TDR, qu'est-ce que les TDR? On avance. Ah bon, j'aurais dû me mettre la base. Donc, qu'est-ce qu'un TDR? En fait, le test de diagnostic rapide du paludisme ici est un test qui permet de détecter assez rapidement, dans les 10-15 minutes, l'antigène du paludisme à partir d'un prélèvement sanguin sur le bout du doigt du sujet qu'on étale sur une bandelette, une cassette si vous voulez, avec quelques gouttes de solution diluante, solution tampon comme on le dit. Le sang migre vers une zone et on a un trait de contrôle qui apparaît déjà. Ce trait de contrôle permet de s'assurer qu'on a un test qui est déjà bon. Et le deuxième trait permet si un deuxième trait s'affiche, et là on est dans une situation de test positif pour dire que l'individu est porteur du parasite du paludisme. Et lorsqu'on n'a que le trait de contrôle, en principe c'est un test négatif. Donc le test de diagnostic rapide, l'un des avantages c'est qu'il est simple à utiliser, on n'a pas besoin d'équipement spécial. Donc, on peut l'utiliser à tous les niveaux du système de santé et même dans les milieux communautaires. L'avantage ici, c'est qu'on peut avoir les tests, comme je l'ai dit, dans les 10-15 minutes. Et les objectifs qui sont poursuivis à travers l'adoption, la promotion de l'utilisation de ces tests de diagnostic rapide, c'est de parvenir à remplacer le diagnostic présomptif par un diagnostic biologique clairement établi. Voilà. Et puisqu'avec le diagnostic présomptif, on avait, comme Thomas l'a souligné dans sa communication, il y avait une surprescription médicamenteuse et pour éviter les effets les résistances au traitement. Donc, il faut arriver à rationaliser cette prescription. Donc, en mettant en évidence d'abord le germe du paludisme, en étant sûr, en griffe, que l'individu est porteur du germe du paludisme, donc souffre de paludisme, en ce moment, on peut prescrire les antipaludéens. Donc, il s'agit aussi de pouvoir améliorer la qualité des soins par une prise en charge, un diagnostic rapide qui permet de prendre en charge rapidement et de réduire ainsi la mortalité liée au paludisme. Les TDR sont adoptés. Il y a plusieurs pays qui ont commencé à utiliser les tests de diagnostic rapide en Afrique. Et selon l'OMS, 37 sur 43 pays dans la zone endémique ont déjà adopté une loi qui favorise l'utilisation des tests de diagnostic rapide pour tous les âges. Au niveau du Burkina Faso, où on a plus travaillé, les tests de diagnostic rapide ont été introduits à partir de 2009. C'était d'abord une phase pilote qui a concerné un certain nombre de régions sanitaires, 6 régions sanitaires, avec l'appui du Fonds mondial et l'Agence américaine de coopération. À partir de 2010, au niveau de cette phase, étaient seulement concernés les sujets âgés de plus de 5 ans. Depuis 2012, on est passé à une phase d'échelle nationale, donc les TDR sont utilisés dans tous les centres de santé et pour tous les sujets, donc les moins de 5 ans comme les plus de 5 ans. Et la prise en compte, la définition du paludisme dans les documents officiels prend en compte et l'utilisation des tests de diagnostic rapide. Donc un cas de paludisme égale, les critères sont définis, plus un TDR positif. Et donc, et aussi dans les algorithmes de prise en charge, les algorithmes décisionnels, on aboutit à une situation de paludisme, à un cas de paludisme lorsque le test de diagnostic rapide a été établi. Donc en dehors du test de diagnostic rapide qui établit clairement la présence du paludisme, on ne peut pas parler de cas de paludisme. Donc l'introduction de tests de diagnostic rapide a eu pour avantage d'améliorer les capacités diagnostiques des soignants, selon ce qu'ils nous ont rapporté. Il y a eu aussi le diagnostic et la prise en charge rapide des cas de paludisme, des cas de fièvre qui étaient suspectés de paludisme. Mais cette situation comporte aussi des limites, parce que faire reposer le paludisme sur la détection préalable du parasite, du germe, et comment le dire,
tu veux un test?
Non, je ne veux pas un test. Voilà. Ça a contribué à renforcer, pardon, je retrouve mes idées, la biomédicalisation de la prise en charge du paludisme. Cependant, sur le terrain, cette situation se confronte à des réalités qui ne s'inscrivent pas toujours dans cette logique. C'est-à-dire que l'un des objectifs était de parvenir à améliorer les pratiques des soignants, notamment dans les prescriptions des médicaments. Mais on a constaté que ça n'a pas véritablement modifié les pratiques des soignants. Parce que le diagnostic présomptif continue et perdure. Les sujets qui n'ont pas de test, dont le test est négatif, continuent de recevoir des traitements antipaludéens. Et dans une logique explicative de cette situation, les soignants mettent en avant certaines conditions, certains contextes qui font qu'ils ne peuvent pas toujours tenir compte des résultats des tests de diagnostic. Déjà, il y a l'expérience professionnelle qui leur permet de savoir, d'arriver à établir un diagnostic du paludisme sans forcément avoir recours au TDR. Devant un cas donné avec certains symptômes, le fait d'avoir été en contact avec les malades depuis plusieurs années, on sait déjà s'il s'agit d'un cas de paludisme ou pas. Et un autre élément, c'est la logique de l'anticipation. Oui, on peut faire un test de diagnostic rapide qui nous dit que l'individu ne souffre pas de paludisme, mais devant les symptômes qu'il présente, mieux vaut administrer un traitement pour couvrir la personne, de sorte à ce que la personne ne revienne pas plus tard avec des complications. Et là, ça conduit à se poser la question de la fiabilité de ces tests qu'ils utilisent, parce qu'ils disent que selon l'état dans lequel l'individu arrive à l'hôpital, on peut ne pas avoir la densité parasitaire, peut faire en sorte que le test soit négatif à l'instant, mais lorsqu'il se retrouve à la maison, il peut avoir des complications. Donc, pour éviter ces va-et-vient qui induisent des coûts supplémentaires pour le malade, mieux vaut administrer le traitement sans tenir compte des résultats des tests de diagnostic rapide. Donc, pour eux, la définition du paludisme ne repose pas fondamentalement sur la détection de l'antigène comme l'OMS le souhaite maintenant. Et il y a d'autres études aussi qui ont montré que c'est au niveau, je reviens sur la variabilité de la densité parasitaire, qui selon les zones, selon l'état, le temps dans lequel l'individu arrive à l'hôpital peut varier. Ça, c'est un pour reprendre ce que j'ai dit. Et deuxièmement, l'individu peut être porteur du gène. Thomas, tu me corrigeras si je. Mais il n'est pas forcément souffrant du paludisme. Donc, on ne peut pas se baser sur la détection de l'antigène pour prendre en charge, pour définir le paludisme et faire proposer une prise en charge adéquate. Donc, ici, ce que nous voulons mettre en évidence ici, c'est que l'implication, l'introduction des tests de diagnostic rapide, ça permet de poser un diagnostic rapide, de parvenir à une prise en charge rapide. Et ce faisant, on assiste à un renforcement de l'approche parasitologique qui, en tenant compte des réalités du terrain, des contextes dans lesquels les soignants agissent, le contexte de relations avec les malades, ne suffit pas pour parler du paludisme, pour poser une définition du paludisme. Voilà. Donc, je redonne la parole à...